VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 février 2021. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres. Ouverture à Kigali du procès de Paul Rousset Sabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Au Nigeria, Mohamed Bouhari ordonne une opération rapide pour retrouver les personnes enlevées dans le centre-ouest du pays. Au Tchad, au moins 35 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Ici aux États-Unis, Joe Biden veut rompre avec les politiques d'immigration restrictives de l'administration Trump et accueillir plus de réfugiés. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir, on le disait en titre, le procès de Paul Rousset Sabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert aujourd'hui à Kigali. L'ancien hôtelier qui a contesté le droit du tribunal à le juger est accusé, entre autres, de terrorisme. Le point avec Eric Manirakiza.
Dès l'ouverture de l'audience, Paul Rousset Sabagina et ses avocats ont dénoncé les conditions de son arrestation et contesté le droit du tribunal à le juger. Je vais le répéter comme je l'ai dit de nombreuses fois, je ne suis pas rwandais, je suis belge, le dossier devrait le mentionner, a-t-il déclaré à la barre. Le procureur Bonaventure Rubegwa a relevé la nationalité rwandaise des parents de M. Rousset Sabagina et que ce dernier n'avait jamais renoncé à sa citoyenneté. Ses avocats ont accusé le régime rwandais de l'avoir fait enlever. L'ONG Human Rights Watch a également dénoncé une disparition forcée. Critique du régime de Paul Kagame, Paul Rousset Sabagina vivait en exil depuis 1996 aux États-Unis et en Belgique. Il est visé par 13 chefs d'accusation, dont terrorisme, meurtre et financement de rébellion, pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Il comparaît avec 20 autres co-accusés. Sa famille estime que les charges retenues contre lui sont plutôt politiques.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que 33 organisations partenaires ont lancé ce mercredi un appel de fonds de 222 millions de dollars pour apporter une aide à plus de 315 000 réfugiés burundais en 2021 pour leur garantir de la nourriture, des abris, des services éducatifs ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'eau. Les vies de plus de 3 millions d'enfants déplacés sont menacées en République démocratique du Congo selon un nouveau rapport de l'UNICEF qui montre qu'il y a actuellement 5,2 millions de personnes déplacées en RDC, plus que dans n'importe quel pays à l'exception de la Syrie. 50% ont été déplacés au cours des 12 derniers mois. Toujours en RDC, au moins 16 corps ont été repêchés du fleuve Congo après le naufrage d'une péniche dimanche au village Malebo, à plus de 100 km de Kinshasa. 125 personnes ont été secourues et 16 corps repêchés, a déclaré Papi Kamalubanda, commandant de la force navale congolaise dans cette zone. Plusieurs autres corps restent toujours coincés dans les débris de l'embarcation. Les Nations Unies appellent à faire avancer la paix et le développement durable dans la région du G5 Sahel selon un message vidéo d'Antonio Guterres diffusé lors du sommet du G5 Sahel. Je reste préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire dans la région, en particulier à Liptako-Gourma où la spirale de la violence aggrave une situation humanitaire déjà difficile, a déclaré le patron de l'ONU. En RCA, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande d'augmenter les effectifs de la MINUSCA de près de 3700 casques bleus, soit 2750 militaires et de 940 policiers. Ce renforcement devrait être échelonné et fondé sur un examen régulier de l'évolution du contexte politique et sécuritaire, ajoute M. Guterres. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné une opération pour sauver 42 personnes enlevées par un groupe armé dans un pensionnat de l'État du Niger. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le président Buhari a demandé aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Des hommes armés ont attaqué un pensionnat de Kagara dans l'État du Niger, dans le centre-ouest du pays, a déclaré Muhammad Sani Idriss, membre du gouvernement local. Il ajoute qu'au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans le lycée. Les assaillants ont emmené 27 élèves, 3 enseignants et 12 membres de leur famille et ont tué un élève. En décembre dernier, 344 élèves ont été kidnappés dans un pensionnat de Kankara, dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays, avant d'être relâchés. La semaine dernière, le responsable de ce rapt, Awalun Daoudawa, un chef de groupe armé, s'est rendu aux autorités en échange d'une amnistie. En 2014, Boko Haram a enlevé plus de 200 jeunes filles à Chibok, dans le nord-est. Critiqué sur sa gestion des conflits, le président Buhari a remplacé fin janvier les 4 principaux chefs de l'armée.
Au Tchad, de violents affrontements entre éleveurs et agriculteurs ont fait au moins 35 morts dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué mercredi le secrétaire général de cette province en proie à des conflits meurtriers entre ses communautés. Abdourahman Dia.
Selon Omar Ahmad, des cultivateurs ont été attaqués par des coupeurs de route. Cette attaque a fait un mort et 2 blessés. En représailles, les cultivateurs qui accusent les éleveurs d'être responsables ont attaqué lundi une zone où vivent ces derniers dans la province du Salamat, dans le sud-est du Tchad. Des forces de l'ordre ont été déployées dans la province. Le retour au calme est intervenu lundi après-midi. Ce drame est parti d'un incident avec des coupeurs de route, des voleurs armés qui opèrent en embuscade sur les routes. Cette fois-ci, ce n'est pas lié à la dévastation d'un champ, a estimé l'officiel. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades, arabes et cultivateurs autochtones sédentaires qui les accusent de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. En décembre et début janvier, près de 50 personnes ont été tuées dans d'autres conflits communautaires.
La vaccination contre le COVID-19 a commencé en Afrique du Sud. La première dose du lot de 80 000 vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson arrivée la veille au soir dans le pays ont été administrées à des soignants de l'hôpital Kayelisha, un important township de la ville du Cap.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le débat sur le nucléaire iranien est relancé à quelques jours de l'entrée en vigueur de la suspension de certaines inspections par la République islamique. Les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande évoqueront ce dossier jeudi prochain. Téhéran, lui, doit accueillir le directeur général de l'AIEA samedi. Le point de la situation avec Mohamed Oumfa.
Le 23 février, dans 6 jours, l'Iran pourrait cesser de mettre en œuvre des mesures volontaires de transparence sur la production de son énergie nucléaire si les sanctions imposées par Washington depuis 2018 n'étaient pas supprimées, ce qui est conforme à une loi adoptée en décembre dernier. Ce qui alimente des inquiétudes. Les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande organisent demain jeudi une réunion consacrée à l'Iran et à la sécurité régionale au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va y assister par visioconférence. Vendredi dernier, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont averti l'Iran qu'il compromettrait tout retour à des négociations s'il continue à violer ses engagements. Le président iranien Hassan Rouhani s'est dit prêt à recevoir le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour des discussions. Depuis le retrait de Washington de l'accord de 2015, l'Iran s'est retiré de la plupart de ses engagements. La nouvelle administration américaine a exprimé sa volonté de revenir à l'accord, mais demande à l'Iran de s'en tenir à ses engagements. Téhéran réclame d'abord la levée des sanctions.
Le secrétaire général de l'ONU a réclamé mercredi au G20 de bâtir un plan mondial de vaccination pour n'oublier personne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Je pense que le G20 est bien placé pour établir un groupe de travail d'urgence chargé de préparer un tel plan mondial de vaccination, a déclaré Antonio Guterres. Parmi les 15 membres du Conseil de sécurité figurent les plus gros producteurs de vaccins, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et l'Inde. L'Union européenne a annoncé mercredi un accord pour acheter 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna contre le COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé faisant état d'une chute de 16% des nouveaux cas dans le monde plus d'un an après le début de la pandémie qui a fait plus de 2,4 millions de morts. Un Américain installé dans le nord-ouest de la Syrie, se décrivant comme journaliste, mais soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste, a été libéré mardi par la faction au pouvoir à Idlib, selon une ONG. Bilal Abdul Karim, un Américain de 49 ans, converti à l'islam, avait été interpellé en août dernier par le groupe djihadiste Ayat Tahrir al-Sham dans la province d'Idlib. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manerakiza.
La digitalisation des services financiers doit encore surmonter certains défis en Afrique, dit FinAfrique, une firme d'analyse des secteurs financiers spécialisés sur le continent noir. FinAfrique s'appuie sur une enquête menée au sein de 289 banques et 225 sociétés d'assurance de 21 pays de la région. Face à la montée de la part des transactions d'argent via le mobile en Afrique, les banques et assurances des pays africains analysés doivent encore aller au-delà de l'existence numérique. Des établissements de coworking se multiplient en Libye. Ces espaces de travail partagés sont en plein essor, en particulier à Tripoli, où vit plus de la moitié de la population. Les opérateurs de coworking n'hésitent pas à mettre les moyens. Groupes électrogènes imposants, panneaux solaires, onduleurs, s'érigeant même parfois en fournisseurs d'accès à Internet. Le géant américain de l'automobile Ford a annoncé mercredi un investissement d'un milliard de dollars en Allemagne dans le but de passer d'ici 2030 au tout électrique pour ses modèles vendus en Europe. Son rival General Motors compte abandonner d'ici 2035 les voitures à émissions polluantes qui représentent pourtant encore l'immense majorité de sa production.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Deuxième sortie en match de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans ce soir. Duel entre les deux leaders du groupe A, Cameroun-Ouganda, battu en ouverture dimanche par le Cameroun 1-0, le pays hôte, la Mauritanie, tente de se relancer face au Mozambique. Hier, dans le groupe D, le Ghana a corrigé la Tanzanie 4-0 pour prendre la tête du classement devant le Maroc, vainqueur de la Gambie 1-0. Que de matchs nuls dans le groupe B, 0-0 entre le Burkina Faso et la Tunisie et 1-1 entre la Namibie et la République centrafricaine. En Europe, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir. Deux matchs au programme face au FC Porto de l'attaquant malien Moussa Marega. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo fera sans son défenseur central Leonardo Bonucci, blessé, et son milieu argentin Paulo Dybala en phase de reprise. Ces deux forfaits s'ajoutent à celui du Colombien Juan Cuadrado, que le club a annoncé lundi absent pour au moins 10 jours après une blessure à la cuisse droite. L'autre huitième de finale aller opposera le FC Séville à Dortmund. Hier, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, tous deux buteurs, ont permis à Liverpool de s'ouvrir la voie des quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 2-0 contre Leipzig dans un match aller délocalisé à Budapest en raison des règlements sanitaires allemands. Dans l'autre match de ses huitièmes de finale aller, pour sa première au Camp Nou, Kylian Mbappé a remporté son bras de fer contre la superstar argentine Lionel Messi avec un triplé et a permis au Paris Saint-Germain de repartir de Barcelone avec une victoire précieuse 4-1. Tennis, Stefanos Tsitsipas a réussi un exploit en remontant un handicap de 2-7 face à Rafael Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie. Tsitsipas affrontera en demi-finale vendredi Daniil Medvedev qui a fait craquer physiquement son compatriote Andrey Rublev. L'autre demi-finale masculin opposera demain Novak Djokovic, le Serbe numéro 1 mondial, et Aslan Karastev. Chez les dames, le choc entre la japonaise Naomi Osaka, 23 ans, troisième mondiale lauréate du dernier US Open et vainqueur à Melbourne en 2019, et l'américaine Serena Williams, 11e mondiale, en quête à 39 ans d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, est très attendue. Suivra la seconde demi-finale dame entre la Tchèque Karolina Muchova et l'américaine Jennifer Brady. Ici, en NBA, Brooklyn a réussi une remontée fantastique pour s'imposer à Phoenix, 121 128-124. Portland a décroché un cinquième succès d'affilée face à Oklahoma City 115-104. Sans Anthony Davis, victime d'une élongation au mollet droit, les champions en titre, les Lakers, ont battu les Timberwolves 112-104. LeBron James a été énorme avec ses 30 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. La mauvaise passe se poursuit pour les Bucks, battus pour la quatrième fois consécutive 124-113 par les Raptors du Camerounais Pascal Siakam, auteur de 23 points et 13 rebonds. Boston a eu le dernier mot face à Denver 112-99.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad. Retour sur le sommet du G5 Sahel qui s'est achevé hier en N'Djamena, à Ouagadougou, Burkina Faso. De nombreux citoyens et experts donnent leur avis sur la tenue de ce sommet et la lutte contre le terrorisme dans la région. Les précisions de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Dans les rues de la capitale burkinabé, au lendemain du sommet de N'Djamena, les populations se prononcent sur le sommet.
Le sommet du G5 Sahel, là, c'est fait seulement pour que les États africains là, se rencontrent seulement pour bavarder. Sinon, l'Afrique déjà maîtrise son terrorisme. C'est le même terrorisme que les Européens connaissent. C'est mieux d'exclure la France même des aides pour combattre notre terrorisme.
La France veut nous aider à lutter contre le terrorisme. Ça, c'est normal. Celui qui dit que c'est faux, je ne suis pas d'accord.
Les gens ne veulent pas rentrer en profondeur pour stopper cette manœuvre, ce fait qui enrichit plusieurs pays. Parce que quand ces sommets se tiennent, ce sont des milliards qui se convoquent comme budget pour tenir ces sommets. Donc, en quelque sorte, ça profite à certains.
Je ne sais pas si vraiment cette fois-ci, ça sera la bonne. La bonne aide ou bien c'est la bonne concrétisation.
Pasien est analyste politique et juriste.
Qu'est-ce que les chefs d'État africains ne savent pas et qu'ils pourraient apprendre à nouveau? Qu'est-ce qu'il faudrait se dire avec l'Occident qui n'ait jamais été dit? Je pense que l'heure est dans l'action. Il est vrai que la France intervient depuis quelque temps aux côtés, dit-on, des pays du G5 Sahel. Les premiers responsables de la sécurité des Africains sont les Africains eux-mêmes. Donc il revient aux dirigeants déjà de prendre les responsabilités pour défendre. Je pense que l'Afrique a suffisamment de capacités pour se prendre en charge. Il y aura certainement des difficultés, mais nous savons que c'est dans la difficulté que nous apprenons. Ce n'est certainement pas le moment de refuser l'aide. L'aide, comme l'a dit le président Thomas Sankara, nous aurons besoin de l'aide qui nous permet de nous passer de l'aide.
Au-delà des sommets de la lutte armée contre le terrorisme, il faudra penser aux actions de développement pour endiguer le phénomène. Wassim Nasr est journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel et des réseaux djihadistes.
Il est clair que la réponse militaire ou sécuritaire seule est loin d'être suffisante parce qu'on voit que la situation ne cesse d'aggraver et surtout pour les populations civiles, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger dernièrement. Les réponses doivent être plutôt aussi au niveau de l'administration, au niveau de la justice et que le retour des États respectifs soit au niveau d'un état, des états de service. Et pas que des états de répression.
L'année 2020 a été la plus meurtrière pour les civils au Sahel, avec près de 2400 victimes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Selon les données du site Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED en anglais, les violences ont entraîné le déplacement forcé de plus de 2 millions de personnes dans la région, dont plus de la moitié au Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, un sommet du G5 Sahel se tient à N'Djamena avec la participation de la France engagée depuis 8 ans aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les groupes djihadistes continuent de sévir dans la zone, les populations civiles payant le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont perdu la vie et 2 millions ont été déplacés. Au-delà de l'aspect militaire, le sommet de N'Djamena cherche aussi des solutions politiques et diplomatiques à la crise au Sahel. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com.
Au Bénin, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a déclaré vendredi avoir retenu seuls 3 dossiers de candidature à la présidentielle d'avril. Ceux du président Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumanou et d'une figure dissidente de l'opposition, Corentin Kaoué. Le dossier de l'ancienne ministre de Yayi Boni et actuelle conseillère du président togolais Fornia Sibé a été rejeté. Voyons tout cela avec Ginette Adandé.
Le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, sera face à 2 adversaires le 11 avril prochain. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été retenus par la commission électorale. Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la commission électorale, citant pour les récalés des problèmes liés au nombre de parrainages d'élus. L'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président sortant. Au cours d'une conférence de presse, Ricky Amadoukou a déclaré qu'elle ne se laissera pas faire et menace publier des captures d'écran d'échanges qu'elle a eues avec des députés et maires qui ont avoué que leurs fiches de parrainage leur ont été saisies.
Quand la mythomanie devient un mode de gouvernance, on doit la dénoncer. Le président sortant ne veut pas de la compétition, hélas. C'est tellement plus simple. Pourquoi autant de contorsions? Pourquoi autant de manipulations pour une simple élection?
L'honorable Afobo de l'Union progressiste, un bloc de partis proche de la mouvance présidentielle, enfonce le clou dans une vidéo qui fait depuis vendredi le tour des réseaux sociaux au Bénin. Il y dénonce une forme de dictature. Selon lui, les responsables de la plateforme politique ne lui ont pas laissé les mains libres pour choisir à qui donner son parrainage pour la course à la présidence.
Si effectivement on avait les mains libres, moi, ma parrainage porte sur le nom de Rekia Mandegou. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de nos collègues. Ils ont la volonté à faire ça, seulement qu'ils ont peur.
Les responsables du parti ne sont pas de cet avis. Ils disent avoir fait la démarche nécessaire vers les partis d'opposition, mais n'ont pas eu la réponse escomptée. Pour le député Gilda Sagonkan, membre de l'Union progressiste, la candidate Rekia Madougou a fait économie de vérité.
Nous savons que aucun de nos camarades n'a été approché par Rekia et par un potentiel. Donc, elle n'a pas dit la vérité. Par contre, nous avons fait la démarche contraire vers leur président, Eric Amunoté, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de parrainage.
Mais Rekia Madougou ne démord pas. Elle pense que le chef de l'État se doit d'offrir un tableau politique plus intéressant que celui des législatives où les forces de l'opposition ont été écartées.
J'ai juste envie de construire un Bénin où l'équité, la justice sociale, la transformation structurelle de l'économie permet à ses filles et fils d'être autonomes, de réfléchir par eux-mêmes, de raisonner par eux-mêmes, de prendre leur destin en main.
Les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent déposer un recours à la Cour constitutionnelle qui publiera la liste définitive des candidats à l'élection dans une dizaine de jours. De Cotonou, Ginette Lua Dandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le procès de Patrice Edouard Ngaïsona, ancien ministre centrafricain des Sports, et Alfred Yekatom, surnommé Rambo, s'est ouvert mardi devant la Cour pénale internationale. Ces deux ex-chefs de milices centrafricains, dont un ancien haut responsable du football africain, sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour en parler, Bagassi Koura a joint Maître Régis Tiangai, avocat d'Alfred Yekatom.
Quand une personne est accusée de crimes aussi graves devant la Cour internationale, puisque la Cour internationale ne juge que des crimes qui sont graves, si la personne estime qu'elle a des moyens de se défendre, puisque les accusations qui sont cherchées sur elle ne sont pas fondées, il est tout à fait normal que cette personne puisse rejeter les accusations. Donc pour moi, c'est dans l'ordre des choses que M. Yekatom puisse déclarer qu'il ne reconnaît pas les charges qui pèsent contre lui.
Vous pensez que la Cour s'est trompée alors?
Oui, je pense, parce que là, c'était l'audience qui a démarré hier, c'était une audience d'ouverture. Les parties ont fait leur présentation de leur dossier, le procureur a présenté sa tête d'accusation, les représentants des victimes aussi sont intervenus, mais la défense aussi, logiquement, on devrait le faire, mais tout dépendra de la stratégie que chaque équipe de défense aura adoptée. Donc à ce moment-là, au moment du procès, vous verrez que vous comprendrez pourquoi M. Yekatom a dit qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.
Justement, le procureur Kwaku Van der Puy a déclaré hier que les preuves dans cette affaire établiront la responsabilité de votre client.
Le procureur est dans son rôle. Vous savez, quand on décide d'accuser une personne et qu'on poursuit la personne, on doit être convaincu de ce qu'on dit. Donc si le procureur dit qu'il a des preuves contre notre client, ben, c'est bien qu'il les apporte. Nous aussi, nous aurons des éléments de preuve à présenter. Donc vous voyez, il est tout à fait dans son rôle de procureur de tenir ce type de propos. C'est son travail. Il veut justifier que les poursuites sont fondées sur des bases qui sont bien solides. Mais au moment venu, vous verrez, vous constaterez que entre ce que le procureur dit et les éléments que nous aurons apportés, il y aura une différence, vous serez édifié.
Mais vous ne niez pas que Yekatombe a été chef des anti-Balaka.
La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas de nier ou de reconnaître que M. Yekatombe est le chef des anti-Balaka. M. Yekatombe a été poursuivi comme un chef anti-Balaka. Et là, c'est le procureur, c'est à l'accusation d'apporter les preuves des charges qui pèsent contre lui. Ce n'est pas juste le fait qu'il aurait été un chef anti-Balaka, mais si le procureur considère que c'est un chef anti-Balaka et que des faits ont été commis, il faudra qu'il justifie que les faits poursuivis sont imputables, relève de la responsabilité du d'achat des châteaux. Je tiens à préciser que nous tenons vraiment pour la publicité des débats. Les témoignages seront publics si nous avons assisté dessus, puisque les débats sont publics et l'exception, c'est le huis clos.
Maître Régis Tiangai, avocat d'Alfred Yekatombe, joint à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden veut rompre avec les politiques d'immigration restrictives de l'administration Trump. Il veut accueillir plus de réfugiés aux États-Unis, suscitant l'espoir de certaines des personnes les plus désespérées du monde. Mais les experts prédisent qu'il faudra du temps pour rétablir le programme américain de réinstallation des réfugiés. Aline Barros de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans une agence de voyage à Nairobi au Kenya, Abderizak Nou Ibrahim a un œil sur l'Amérique. Il regarde à la télévision le discours d'acceptation de Joe Biden.
Je suis honoré par la confiance que vous avez placée en moi.
Originaire de Somalie, Ibrahim a fui Mogadiscio, déchiré par la guerre, en 2004. Il est devenu un réfugié. Sa famille et lui ont été autorisés à se réinstaller aux États-Unis au début de 2017. Arrivé à la Maison Blanche cette même année, Donald Trump a signé des décrets interdisant l'entrée aux États-Unis à des personnes venant de plusieurs pays à majorité musulmane, y compris la Somalie. Abdirazik Nour Ibrahim, réfugié somalien.
J'avais passé toutes les interviews, la santé et tout. Puis l'ancien président a introduit une interdiction de voyager. J'attends depuis 4 ans. Cela fait plus de 10 ans que j'attends dans l'espoir d'être réinstallé.
Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, Ibrahim a bon espoir pour la levée des restrictions de voyage et l'augmentation des admissions de réfugiés aux États-Unis. À partir du mois d'octobre, les États-Unis pourront accueillir jusqu'à 125 000 réfugiés par an, contre 15 000 à la fin de l'administration Trump. Le président Joe Biden.
Il faudra du temps pour reconstruire ce qui a été si gravement endommagé.
Et la pandémie du COVID-19 est venue s'ajouter aux nombreux défis. Christopher Boyan est chargé de communication au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Il y aura beaucoup de défis, y compris le niveau du financement, la dotation personnelle pour relancer ces processus. Mais sans doute, l'un des plus grands défis pour amener ce programme au niveau robuste que l'administration américaine dit vouloir atteindre, c'est la pandémie de COVID.
Les organisations d'aide à la réinstallation basées aux États-Unis espèrent se remettre à l'œuvre. Alicia Wren est directrice de l'une de 9 organisations à but non lucratif qui aident la réinstallation des réfugiés aux États-Unis.
Nous sommes vraiment impatients de recruter du personnel. Nous prévoyons même avec certains de nos partenaires d'ouvrir de nouveaux bureaux.
Mais les partisans de Trump ont des doutes. Pour eux, un contrôle plus rigoureux aide à garantir que ces réfugiés réinstallés ne présente aucun danger pour les États-Unis. Les défenseurs des droits des réfugiés estiment que les problèmes de sécurité sont exagérés. Krish Omara Vingaraja est patron de l'ONG Lutheran Immigration and Refugee Service.
There is this claim.
Il y a cette assertion qui n'est pas du tout vraie, selon laquelle les réfugiés sont potentiellement des criminels ou des terroristes. La vérité est qu'un réfugié est beaucoup moins susceptible de commettre un quelconque crime qu'un Américain né dans ce pays.
Native-born American.
À Nairobi, le réfugié somalien Abdirazak Nour Ibrahim espère que son cauchemar prendra fin un jour et qu'il pourra enfin réaliser le rêve américain.
Et c'est la fin de ce journal à la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnou et Joselle Morissin. À la présentation, John Lydon, édition en chef Idriss Fall. Au revoir.